Notre web radio DiffusArt vous propose de découvrir l'univers de la radiodiffusion, encore appelée radio amateurisme. C'est une interview de Jean-Luc Levent, alias The Sun, menée par Ewan Jacquelin, élève de 3e en janvier 2023. Monsieur Levent est président de l'Association des radioamateurs de Loire-Atlantique, ARALA, et vice-président de l'Association Réseau des émetteurs français, REF.
Donc, est-ce que vous pouvez vous présenter et expliquer votre activité?
Bien sûr. Oui. Donc, je suis Jean-Luc Levent, j'ai 64 ans, je suis donc retraité. Mon activité, c'est le radioamateurisme. Radioamateurisme, voilà, c'est des amateurs de radiocommunication. Voilà, en quelques mots, nous sommes des gens qui aimons en fait construire, expérimenter, faire des liaisons radio, télévision. Donc, on adore les radiocommunications, on adore construire nos matériels, faire des expérimentations, tester des nouveaux principes de transmission. Voilà, ça tourne autour de ça en fait. Et on peut dire que nous sommes un peu les pionniers de tout ce qui existe en radiocommunication aujourd'hui, puisque les premiers radioamateurs, parce qu'on s'appelle comme ça, un radioamateur, datent de 1925, donc à l'émergence de tout ce qui est électronique, radiocommunication. Voilà, donc on est à peu près 15 000 en France. Et on est 3,5 millions dans le monde entier, puisqu'on a des homologues dans le monde entier. Et donc, ça nous permet effectivement de communiquer entre nous en utilisant la radio, la télévision. Voilà, et on a des modes de communication assez exotiques, puisque par exemple, on peut utiliser des satellites pour communiquer. On a des satellites radioamateurs. On peut faire des communications via la Lune, via les météorites, via les astéroïdes en général. Donc, c'est assez exotique, hein, c'est assez particulier. Alors, il y a une chose que je n'ai pas dit tout à l'heure concernant les radioamateurs, parce que ça, c'est important quand même à dire. C'est que les radioamateurs, ils sont pour la plupart, ce ne sont pas des professionnels qui ont fait des études en électronique ou en radio ou en informatique. Ce sont vraiment des passionnés. Et dans les radioamateurs, on va trouver des gens qui n'ont rien à voir avec l'électronique dans leur formation. On va retrouver des plombiers, des chauffeurs routiers, des charcutiers, des boulangers, des avocats. On a même des gens célèbres, on a des artistes. On a même le roi Hussein de Jordanie qui était aussi radioamateur. Voilà, donc c'est vraiment des gens qui viennent de tout horizon et qui se sont simplement formés sur le tas, sur le terrain, parce qu'ils sont passionnés par cette activité. Donc ça, c'est ce qui est un petit peu remarquable dans le monde des radioamateurs, c'est l'origine des radioamateurs qui est vraiment très diversifiée, avec des formations et des métiers qui n'ont strictement rien à voir avec cette passion. Donc ça, c'est vraiment important à le dire. Vous savez par exemple que Thomas Pesquet est aussi radioamateur.
C'est vrai ?
Oui, oui, il est radioamateur. Ce qui nous a permis en fait de faire des contacts avec lui. Donc nous, on a fait un contact avec Thomas Pesquet et avec des classes de CM2, CMA, CM2, en 2021, c'est ça, le 13 octobre 2021, on a fait un contact radio avec lui alors qu'il était donc à bord de la station spatiale ISS. Il était même commandant de bord à cette époque-là. Ce qui est important à savoir, c'est que pour être radioamateur, il faut être autorisé à émettre, à utiliser l'espace hertzien qui est public, qui n'appartient à personne sauf au président de la République. Et donc, pour pouvoir utiliser l'espace radio, l'espace des ondes radio, il faut avoir l'autorisation. Et pour avoir l'autorisation, il faut passer un examen qui comporte en fait deux parties. Il y a une partie purement technique. Bon, là, on apprend en fait toutes les techniques et technologies de la radio. Et un deuxième qui est réglementaire, C'est-à-dire qu'on ne peut pas utiliser l'espace hertzien pour dire tout et n'importe quoi. On a des domaines sur lesquels on peut communiquer et d'autres pas. Par exemple, on ne peut pas parler de politique, on ne peut pas parler de religion, etc. Par contre, parler donc de la radio, bien sûr, de la météo, des sciences de la Terre en général, on peut le faire parce que ça a un impact sur le fonctionnement des ondes. Enfin bon, voilà, donc je voulais dire ça, c'est que on doit passer un examen avant d'être autorisé à émettre. Et l'examen, en fait, quand on le passe et qu'on le réussit, en fait, il est sanctionné par un indicatif. Un indicatif, si vous voulez, c'est un deuxième nom qu'on a, mais c'est un nom qui est radioamateur. Donc, par exemple, en France, tous les indicatifs des radioamateurs commencent par la lettre F. Et puis après, il y a une suite d'informations qui caractérise, en fait, qui individualise, en fait, l'indicatif. Par exemple, pour moi, c'est F4GSC. Voilà, F4GSC, c'est mon indicatif, c'est mon prénom ou mon nom de radioamateur.
Voilà. Ça permet de communiquer plus facilement.
Exactement. Ça permet de s'identifier plus facilement les uns par rapport aux autres. Voilà. Et chaque pays, en fait, a une structure d'indicatifs différente, bien sûr. Hein. Par exemple, pour les Américains, c'est K4GC, hein, ça pourrait très bien être GSC, ou W4GC. Pour les Anglais, c'est G3G1. Bon, chaque pays a sa codification, en fait.
Et ce qui suit le F de votre indicatif, il y a une logique ou non ?
Non, en fait, c'est quand même un peu arbitraire. Ça suit soit le code qui est disponible, ou soit on peut reprendre un code qui existe déjà, mais qui n'est plus utilisé. Mais ça n'a pas de vraiment.
Est-ce que dans certains cadres, ça pourrait s'avérer primordial de savoir ce savoir-faire.
Est-ce que ce savoir-faire peut être utile dans d'autres événements, d'autres occasions ? C'est ça votre question ?
Oui.
Eh bien, écoutez, oui. Alors, justement, oui, il y a des activités qui sont un petit peu particulières. Là, vous savez aujourd'hui qu'on risque d'avoir, même si la possibilité où la probabilité s'amenuise de jour en jour, il est possible qu'on ait des délestages EDF. C'est-à-dire qu'on coupe en fait l'énergie électrique qui alimente en fait notre maison ou nos habitats. Donc ça, c'est quelque chose qui est envisagé. Si nos centrales de production électrique ne sont pas suffisantes, on risque d'avoir des coupures. Et le problème de ça, c'est que les coupures, ça peut entraîner des effets secondaires tels que, par exemple, les relais radio-téléphoniques qu'on utilise avec nos téléphones GSM risquent de plus fonctionner. Et ça peut poser problème dans le cas où il y a, par exemple, des accidents ou des urgences, parce que du coup, les centres d'urgence risquent de plus pouvoir communiquer avec les centres d'appel téléphoniques, enfin, des centres d'appel radio qui sont chargés de collecter tous les appels provenant des victimes dans le but de mettre en œuvre les secours qui vont bien. Donc ça, c'est un risque potentiel qui a été identifié. Et donc, pour pallier à ce risque, on fait appel aujourd'hui aux radioamateurs pour assurer la communication entre les points où il y aura des incidents, des accidents ou des victimes, pour assurer la communication entre les victimes et les centres d'appel. Voilà, donc ça, c'est un exemple d'utilisation particulier de notre savoir-faire. C'est-à-dire qu'on va être capable d'assurer, en fait, des opérations de sécurité civile sous réquisition de la préfecture. C'est la préfecture qui, dans ces cas-là, nous réquisitionne pour assurer ces contacts radio. Voilà, c'est un exemple.
D'accord. Donc, même en cas de coupure d'électricité, vous pouvez envoyer des ondes radio.
C'est ça. C'est-à-dire qu'on a des stations radio portables et autonomes qui nous permettent effectivement d'assurer ces liaisons radio.
Est-ce que vous pouvez détailler la communication par radio? Vous entendez quoi par communication par radio?
D'accord. Donc, alors, on utilise donc les ondes radio, de manière générale. Hein. Les ondes radio, c'est ce qui permet de transporter de l'information, qu'elle soit transportée de l'information à distance, hein. Donc qu'elle soit d'origine, que ce soit de la phonie, hein, par la voix, ou que ce soit par l'image, donc la télévision, que ce soit par le morse, c'est une technique de communication ancienne, mais qui existe encore, le morse, c'est un code, hein. Que ce soit de manière numérique, on évolue avec la technologie en fait, hein, et aujourd'hui on a des modes de communication numérique, c'est-à-dire qu'on envoie des informations, des fichiers, des fichiers binaires, hein, au sens où vous devez le comprendre aussi. Hein. Donc on n'envoie pas directement l'information telle qu'elle est, mais on la transforme en information informatique. Donc on a ça aussi. Donc pour ça, en fait, on a, comme je vous le disais, on utilise donc des bandes de fréquences, des fréquences, et on a un certain nombre de bandes de fréquences qui nous sont allouées par l'administration. Voilà. Et en fonction de cette bande de fréquences qu'on va utiliser, on va pouvoir communiquer avec des radioamateurs qui sont plus ou moins éloignés de nous. Voilà. Donc, dans certaines portions de la journée, on va utiliser certaines bandes de fréquences pour, par exemple, communiquer avec les Américains, les Chinois, les Japonais, puis on va utiliser d'autres bandes de fréquences si on veut communiquer plus localement.
Je me pose la question, mais si vous communiquez en morse avec, je sais pas, par exemple, des Japonais, eux, ils n'ont pas le code, ils n'ont pas l'alphabet romain, donc ils font comment, ils traduisent
Alors, on utilise pour ça, si vous voulez, un code international. On appelle le code Q. Et par exemple, quand on veut parler de l'endroit où on est, on va utiliser le code Q et utiliser l'abréviation QTH. QTH. Et qu'on soit japonais, chinois, américain ou français, quand on voit apparaître QTH, on sait que le correspondant est en train de parler du lieu où il habite. Un exemple.
Aussi, vous avez dit tout à l'heure que vous construisiez vos machines.
Notre matériel.
Votre matériel. Comment vous faites, et si vous auriez des exemples.
Oui, bien sûr. Alors, si vous voulez, on construit donc nos antennes. Voilà, les antennes, elles ont différentes formes, elles ont certaines caractéristiques, certaines dimensions qui correspondent aux bandes de fréquences sur lesquelles on va travailler. Donc, pour les construire, comment on fait? On a des modèles qui existent, on a des moyens de calculer les dimensions des antennes, on a un certain nombre d'outils à notre disposition pour faire ça, on a des calculateurs qui sont spécialisés pour la conception d'antennes, ou on recopie tout bêtement en fait une antenne qui existe déjà, c'est-à-dire qu'on va relever les dimensions de notre antenne. Et puis, on va regarder quel type de matériau est utilisé, est-ce que c'est de l'aluminium, est-ce que c'est du cuivre, etc. Et à partir de là, on va reproduire l'antenne originale. Quoi. Ça, c'est un exemple. Après, on peut utiliser effectivement des simulateurs informatiques, des calculateurs informatiques dans lesquels on va faire un dessin de l'antenne. Par exemple, on peut prendre une antenne la plus simple, hein, c'est un bout de fil qui a une certaine dimension. Donc, on va rentrer dans le calculateur la dimension du fil, son diamètre, à quelle hauteur le fil se situe par rapport au sol. Le calculateur va nous simuler, en fait, calculer les caractéristiques de l'antenne, et puis on va jouer sur les dimensions de l'antenne pour arriver à faire en sorte que l'antenne électriquement correspond à ce qu'on attend par rapport à la bande de fréquence. Voilà. Donc ça, c'est vrai pour les antennes. Après, on construit aussi nos émetteurs, nos récepteurs. Donc là, c'est pareil, on part de schémas qui sont existants où on conçoit notre récepteur, notre émetteur de zéro. Voilà, on a tout un savoir-faire autour de ça qui fait qu'effectivement, on est capable de concevoir et construire nos propres matériels.
D'accord. Et comment ils marchent, les émetteurs et les récepteurs ?
Comment ça marche ?
Oui.
OK. Alors, si on prend le cas du récepteur. Alors, le récepteur, en réalité, il fait quoi ? Eh bien, il va convertir une information que l'on ne peut pas entendre, nous, humains, parce qu'on n'a pas les oreilles faites pour ça. Donc, le récepteur, il va relever, capter des informations provenant des ondes radio, et il va convertir ces informations ondes radio en une information sonore qui est compréhensible par notre oreille. Donc, il y a différentes fonctions en fait dans le récepteur qui font qu'en final, on arrive à décoder, à entendre l'information qui a été transmise par l'onde radio. Donc voilà, c'est un exemple. Et l'émetteur, il fait l'inverse, c'est-à-dire qu'il va prendre la voix, il va prendre l'information et il va la convertir en une information de type onde radio pour qu'on puisse la transmettre sur longue distance.
Comment les ondes, elles se propagent aussi loin ?
Comment elles se propagent aussi loin ? Alors là, c'est les lois de la physique. Il y a des grands savants qui ont démontré que quand on fait vibrer électriquement une antenne, cette antenne va transmettre une onde radio sur des longues distances, parce que en fait, l'onde radio va se propager aussi loin que l'on veut. Regardez, par exemple, on est capable de piloter des sondes spatiales à des distances qui sont phénoménales, plusieurs dizaines d'années-lumière, voire centaines d'années-lumière. Donc, ça veut dire qu'à partir du moment où on produit une onde radio, elle va se déplacer dans toutes les directions et aussi loin qu'elle a d'énergie. Voilà. Donc ça, c'est, si vous voulez, c'est vraiment les lois de la physique qu'il faut utiliser pour comprendre ça. Mais bon, moi-même, je ne saurais pas utiliser ces notions mathématiques et physiques parce qu'elles sont assez compliquées. Il faut faire des études pour ça. Logique.
Est-ce que pour vous, l'activité de radio amateur est assez répandue, assez connue
Bah, je disais, on est 15 000 en France. Hein. Alors, est-ce qu'on est connu, assez connu ou pas connu ? Bon, c'est difficile à répondre. Bon, bien sûr, on voudrait être beaucoup plus, c'est évident. La seule chose que je peux dire par rapport à cette notion d'effectif, c'est qu'aujourd'hui, la population des radioamateurs est ancienne. La moyenne d'âge, c'est 69 ans. C'est une sorte de pyramide, si vous voulez. Et la base de la pyramide s'étale de 45 ans à peu près jusqu'à 90 ans. Donc, il y a bien sûr, il y a des jeunes, hein, mais elles ne sont pas aujourd'hui elles ne représentent pas de manière significative notre population de radioamateurs. Alors, ça va changer, hein, certainement, mais oui, on aimerait être beaucoup plus, c'est clair. Alors, aujourd'hui, je peux vous parler, par exemple, des interventions qu'on fait dans les écoles. On en fait quand même pas mal. Donc, cette année, l'année dernière, on sera intervenu dans 8 écoles. Principalement primaire, ce qui représente à peu près 12 classes. Et ça fait, on aura donc vu à peu près 600 élèves de cours élémentaires CM1, CM2, et dans lequel on vient justement expliquer ce que c'est que le radioamateurisme. Et on a aussi des ateliers qu'on propose. Alors, on a par exemple l'atelier d'initiation aux morses. On demande aux enfants d'apprendre à taper leur nom et leur prénom en morse. Ça les amuse beaucoup, ça marche très bien. Et puis après, on a une deuxième activité qui s'appelle la chasse au renard. Donc, bien sûr, on ne va pas chasser le renard. Hein. Mais en fait, on va cacher des balises radio dans un parc, dans un espace vert, par exemple. Et on demande après aux enfants, munis d'une antenne directive, c'est-à-dire qui sait reconnaître la direction de l'émission de l'onde radio, une antenne et un récepteur, d'aller retrouver en fait les balises radio. C'est une sorte de chasse au renard, en fait. Voilà. Donc ça plaît beaucoup. Et après, ben, on fait des démonstrations de contact radio, justement, avec des OM des radio amateurs du monde entier, ou localement. Et puis, par satellite aussi, puisqu'on est capable d'avoir de faire des communications par satellite. Voilà, donc ça fait partie des choses qu'on fait couramment. Aujourd'hui, on prépare, dans le même esprit que Thomas Pesquet, on prépare un contact qui va se faire avec des chercheurs qui se trouvent sur une île qui s'appelle l'île Crozet et qui se trouve dans l'Antarctique, tout près des îles de Kerguelen. Kerguelen, généralement, c'est connu. Et donc là, on s'apprête à faire en février. Donc il y a des élèves là de plusieurs classes de CM1, CM2 qui vont poser des questions en direct à ces chercheurs. Pour ça, on va utiliser un satellite qui se trouve à la verticale de l'Afrique centrale, à peu près à 38 000 kilomètres de là où on est aujourd'hui. Et donc les enfants vont pendant une demi-heure poser des questions sur la faune, la flore, le climat, etc., sur un programme qu'ils auront vu et étudié en cours. Voilà, donc ça, c'est aussi quelque chose qui est intéressant, qui plaît bien aux enfants. C'est un côté un petit peu magique, hein, de pouvoir communiquer avec des chercheurs.
Si on a envie de devenir radio amateur,
Oui.
donc comment on fait? Bon, vous aviez dit qu'il fallait passer un examen, mais où on peut s'initier, où on peut
Ouais,
apprendre.
comment on se forme? Alors,
Voilà, la formation.
ouais, et comment on se forme? Eh bien, alors, on peut se former de différentes manières. Donc, il y a la première qui est, il y a des autodidactes qui apprennent tout par eux-mêmes. Donc, ils achètent des bouquins ou ils récupèrent plutôt. Il y a plein de choses hein, sur Internet aujourd'hui qui permettent de se former très facilement. Il y a des tutoriels et autres. Donc, il y a des gens qui font ça dans leur coin. Ils apprennent tout par eux-mêmes. Et après, on peut utiliser les radioclubs. Il y a des radioclubs, hein, c'est un endroit, en fait, il y en a partout, hein, il y en a dans tous les départements. C'est un endroit où les radioclubs se réunissent pour discuter, pour construire, mesurer, communiquer. Il y a les stations radio dans les radioclubs, hein, donc on peut faire de la communication et la transmission. Avec le monde entier, transmettre des images, donc les radioclubs. Après, on peut se former avec un parrain, j'allais dire. Si par exemple demain vous connaissez quelqu'un qui est radioamateur dans votre coin, il peut très bien vous accompagner pour vous apprendre ce que c'est que la radio et vous faire passer la licence. Voilà. Et puis après, bah, il y a des revues aussi qu'on peut très bien récupérer pour apprendre par soi-même. Voilà, donc en gros, si vous voulez, il y a trois approches. On va simplifier. Il y a l'approche autodidacte, il y a l'approche par les radioclubs et l'approche par le parrain, le radioamateur parrain qui va vous guider, vous accompagner dans votre formation. Ça vous
Bah,
a dit?
merci.
Oui, ben, c'est moi qui vous remercie.
Merci, messieurs, pour cette interview. Nous en profitons pour lancer un appel à tous ceux qui aimeraient se former ou être initiés au radio-amateurisme. Il est en effet possible de rencontrer et visiter un centre en Île-de-France et de mettre la main à la pâte en contactant notre web radio Diffusart ou en interrogeant les professeurs documentalistes de l'établissement Saint-Louis-Sainte-Clotilde au Raincy. À très bientôt!